Paroles en musique. Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens. Bonjour à tous et bienvenue, et à toutes bien sûr, et bienvenue à cette autre édition de l'émission Paroles en musique. Ici Raymond Perron qui vous salue, et je suis en compagnie de mon très bon ami et très cher frère Mac Wickfield. Bonjour Mac.
Bonjour Raymond, vous entendez une voix, pas de ténor ce matin que j'ai d'habitude, mais une voix de basse. J'ai un petit chat qui veut sortir quelque part de ma gorge.
Mais nous savons que vous êtes le Caruso du monde évangélique, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Vous êtes grippé, mais dans la mesure où vous n'êtes pas grippette, ça va aller, vous voyez, on va s'agencer.
Merci pour ça, on s'avance.
Alors merci d'être là en dépit de cette indisposition physique, Mac. Et vous avez pour nous encore aujourd'hui un beau petit menu hein, à nous présenter musicalement parlant.
Oui, effectivement, il y a un chant que nous voulons regarder ensemble ce matin et nous voulons l'écouter aussi. C'est un chant qui a été écrit, pas hier, mais avant-hier, disons, par un dénommé William Cooper. Uh-huh. Son nom s'appelle autrement que ça se dit. Le chant s'appelle « There is a Fountain ». Et pour commencer, on va écouter une version a cappella de ce chant qui est vieux d'environ 200 ans, mais toujours actuel.
Et ça s'appelle comment au passage?
Ça s'appelle There is a Fountain.
Je veux dire, ça s'appelle comment?
Le nom de monsieur. Oui, oui. Excuse, le nom de Cooper. Oui, oui. Ça s'appelle Cowper. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est Cowper, mais c'est effectivement, oui. C'est Cooper.
Parce qu'on se serait attendu à Cooper pour prononcer Cooper. Alors, on prononce Cooper, mais ça s'écrit Cowper.
C'est ça.
Merveilleux. Alors, There is a Fountain, on l'écoute immédiatement. Merci.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Sinners plunged beneath the flood.
Raymond, j'aime bien la version a cappella de ce chant. Je vais vous faire la traduction pour qu'on puisse bien comprendre. Ça dit comme suit. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Et les pécheurs plongés dans ces eaux perdent toute leur souillure, leur culpabilité. Le larron mourant s'est réjoui de voir cette fontaine à son époque. Et puis-je, là moi-même, aussi vil que lui, laver tous mes péchés. Cher agneau mourant, ton sang précieux ne perdra jamais sa puissance. Et toute l'Église rachetée de Dieu sera sauvée pour ne plus pécher. Depuis que, par la foi, j'ai vu le ruisseau alimenté par tes meurtrissures, l'amour rédempteur est et sera mon seul thème jusqu'à ce que je meure. Lorsque cette pauvre langue qui balbutie, qui bégaye, reposera en silence dans sa tombe, alors par un cantique plus noble et plus doux, je vais chanter la puissance de ton salut. C'est beau, hein?
C'est magnifique, effectivement. Amen. Et ça parle, bien sûr, du fondement même de l'Évangile, le rachat par le sang du Seigneur Jésus-Christ.
Tout à fait.
Dites-moi, on sait que tous ces cantiques-là, ont été écrits dans un contexte particulier, hein, la révélation générale et la révélation spéciale se combinent, là. Et dans quel contexte est-ce que ça a été rédigé par Monsieur Cooper?
Mais je vous parle un peu de Cooper, William
oui,
Cooper.
Oui, allons-y joyeusement, oui.
Parmi les connaisseurs de la poésie anglaise, son nom, c'est un nom aussi bien connu que celui d'Alexander Pope ou de Percy Bysshe Shelley. Entre autres, il a fait une des meilleures traductions des œuvres d'Homère, le célèbre poète grec.
Ah.
Ça, je le savais pas.
Mmh.
Cooper est né en Angleterre le 15 novembre 1731 d'un père pasteur et d'une mère de famille royale. C'était un enfant fragile, sensible dès son jeune âge, très attaché à sa mère, qui est décédée quand il avait 6 ans. Il a dit dans sa propre vieillesse qu'il avait lamenté cette perte chaque jour de sa vie. Ses études pour le barreau ont provoqué une dépression nerveuse et, en fait, un attentat de suicide.
Oh.
Il a passé 18 mois dans un asile d'aliénés, une période pendant laquelle il avait l'occasion de lire les Écritures. Parfois, Dieu nous met dans des circonstances particulières pour pouvoir nous introduire aux Écritures. Il a été touché par un verset dans Romains 3, le verset 25, qui dit que c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et c'est ce verset, c'est en lisant la Bible, que William s'est rendu compte de son besoin du Christ et du pardon qu'il offrait. Il avait 33 ans. Après sa conversion et son rétablissement, une série de circonstances a fait en sorte qu'il rencontre John Newton.
Oh.
On connaît bien John Newton. Et les deux se sont liés d'une amitié profonde. Ils ont produit ensemble, en 1799, un recueil d'hymnes qui est devenu l'une des contributions les plus importantes dans le domaine de l'hymnologie évangélique. Le texte de ce chant est basé sur Zacharie 13, verset 1, un verset qui dit dans la version du Semeur, « En ce jour-là, jaillira une source pour purifier de leurs péchés et de leurs impuretés la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem. » Mais malgré le succès qu'ont connu ces chants, Cooper lui-même continuait à travers sa vie de vivre des périodes mélancoliques, où il a cherché même souvent à mettre fin à sa vie. Bizarre. Certains de ses hymnes les plus significatifs ont été écrits après ces moments. Il doutait que Dieu, en fin de compte, ne l'accepte. Sur son lit de mort, il s'est exclamé quand même, « Je ne suis pas exclu du ciel, après tout. » Dieu peut-il se servir d'être faible? L'histoire de William Cooper et de moi, peut-être de vous, Raymond,
oui,
nous dit qu'effectivement, il le peut.
Oui.
Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà.
Vous savez, lorsque nos yeux se détournent, ne serait-ce qu'un seul instant du Seigneur Jésus-Christ, et qu'on commence à regarder à nous-mêmes, on devient très dépressif, hein, lorsqu'on a reçu la lumière. Et surtout lorsqu'on a un tempérament mélancolique, parce que même la conversion ne change pas nos gènes. Si nous avons un tempérament mélancolique, notre expérience post-conversion va demeurer également un tempérament mélancolique, sanctifié vraisemblablement, mais plus fragile lorsque l'Esprit du Seigneur fait la lumière dans nos âmes. Alors, merci, Mac, pour ces notes bibliographiques fort intéressantes. Il nous a parlé, bien sûr, ici, du sang du Seigneur Jésus-Christ. L'efficacité du sang pour enlever la culpabilité. Je vais vous demander, au fur et à mesure que je vais les passer, là, de me relire chacune des strophes, à commencer par la première, si vous voulez bien.
Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Et les pécheurs plongés dans ces eaux perdent toute leur soulure, leur culpabilité.
C'est extrêmement bien dit, leur souillure et leur culpabilité. Parce que l'une des choses qu'on tend à minimiser, c'est que nous sommes coupables, voyez-vous. Parfois, on parle de l'Évangile aux gens et ils vont nous rétorquer « mais je me sens pas coupable ». Pour différentes raisons, soit qu'ils se comparent aux autres, ou bon, la conscience est un peu endurcie, est un peu engourdie par toutes sortes de raisonnements, parce qu'on peut endormir nos consciences. On ne peut pas les assassiner complètement, mais on peut les faire taire. Mais nous sommes coupables, que nous ressentions subjectivement ou non cette culpabilité-là, objectivement, nous sommes coupables. Le criminel qui se présente devant le juge et qui n'a pour toute défense, bien votre honneur, je ne me sens pas coupable, risque guère d'être déclaré innocent ou non coupable et d'être relâché. Nous sommes coupables. Et seul le sang du Seigneur Jésus-Christ, comme la strophe le mentionne si bien, peut nous enlever, peut nous laver de cette culpabilité-là, parce que le Christ, par son sang, fait l'expiation, fait la propitiation. C'est un beau verbe, ça, qui vient du mot propice, veut dire Jésus, par son sacrifice, nous rend à nouveau Dieu propice. Et ce sacrifice-là que le Christ a fait, il était préfiguré par tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Parfois, on lit l'Ancien Testament, et si on n'a pas quelques notions là de cela, que sans effusion de sang, il n'y a pas de rédemption de péché, c'est-à-dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et le symbolisme même de la mort, c'est bien sûr verser le sang. Alors, si quelqu'un ne paie pas, il faut payer pour ce péché-là, et le Christ, lui, sans péché, a fait ce sacrifice-là. De sorte que tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament, c'était préfiguratif du Christ. C'était en quelque sorte des leçons d'objets, des sacrements. Un sacrement, c'est une prédication illustrée. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14, « Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, bien sûr, ce sont les sacrifices là, de l'Ancien Testament, sanctifie et procure la pureté de la chair, permettent de rester en vie, là, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Alors, comment pouvons-nous nous libérer de la culpabilité qui pèse sur nous? Culpabilité objective et subjective, ou objective, même si la subjectivité n'y est pas. Bien, Romains 3:19 nous dit que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, et il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul sacrifice acceptable par Dieu pour la justification des pécheurs, et c'est celui du Christ Jésus. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux gens de Colosse, écrit quelque chose d'absolument magnanime, Colossiens chapitre 2, verset 14. Il, le Christ Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ça en dit long, ça. Ça veut dire que, imaginez-vous, Mac, l'acte de condamnation qui pesait contre nous, ça devait pas être écrit sur un petit bout de papier, comme on dit, un post-it, un sticky paper, Ça devait être tout un rouleau, Même un rouleau de papier de toilette écrit recto verso n'aurait pas suffi pour y placer tous nos péchés. Eh bien, cet acte-là qui pesait contre nous, le Christ l'a détruit en le clouant à la croix, lorsqu'il est mort à la croix. Et qu'en est-il de la deuxième strophe maintenant?
Le deuxième strophe parle de celui qui est mort à côté de Jésus. Le larron mourant s'est réjoui de voir cette fontaine à son époque. Et puis je, là, moi-même, aussi vil que lui, lavai tous mes péchés.
Voilà, on dit souvent le bon larron. Hein, c'est un oxymore, hein, un oxymoron. Un bon larron, par définition, c'est une contradiction de termes. Un larron, c'est un bandit, hein, un bon bandit. On n'a pas souvent des termes bizarres comme cela. Hein. On va dire c'est un bon diable. Par définition, un diable ne peut pas être bon, il est diabolique, voyez-vous. Alors, on parle du larron converti, somme toute. Hein, et c'est une péricope qu'on retrouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, versets 32 à 43, où effectivement, deux criminels sont pendus en croix, alors sont crucifiés chaque côté du Seigneur Jésus, et l'un d'eux finalement, après un certain temps, se convertit littéralement. C'est absolument extraordinaire. C'est une des belles portions de l'Écriture sainte qui nous démontre la grâce souveraine du Seigneur, la grâce souveraine de Dieu dans le salut. Il se convertit, hein? Il se convertit. Comment a-t-il pu recevoir la promesse que ce jour même il serait avec Jésus dans le paradis? Parce que c'est ce qui lui est promis. Ben, dans un premier temps, il confesse sa foi. Hein, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous, Max, si vous aviez été crucifié à côté de Jésus, là. Hein, tout le monde est là, qui lui lance des injures, il a été condamné, bon, voilà, et y en a, là, qui vraiment, sont pratiquement dans l'allégresse de voir que finalement, hein, les pharisiens étaient très contents de s'en débarrasser. Est-ce que vous auriez reconnu en Jésus le portrait d'un roi? C'est extraordinaire. Il y a eu une révélation phénoménale à l'intérieur de son être.
Ce n'est que Dieu qui ouvre les yeux, qu'on soit vivant ou mourant.
Ben voilà, effectivement. Et il a eu le privilège de faire dessiller les siens, de se faire ouvrir les yeux. Et une belle démonstration du fait qu'il était converti, du fait que son cœur a été transformé, immédiatement, il commence à exhorter l'autre criminel. Peut-être que c'était des amis, hein? Peut-être qu'ils étaient dans la même business, si vous me passez l'expression. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il raconte? Lui aussi, il parle à Jésus. « Si tu es le Fils de Dieu, détache-toi d'ici, hein? Délivre-toi et délivre-nous qu'on retourne voler. Hein? » C'est ça, finalement, cette espèce de fausse conversion de la part du mauvais larron par rapport à l'autre. Et que dit celui qui est converti? Mais il dit, pour nous, c'est justice. Mais lui, il est innocent, vous voyez, il témoigne à l'autre. Hein? C'est absolument extraordinaire, cette portion d'écriture-là. Est-ce que celui qu'on appelle le bon larron a mérité sa place au ciel? Est-ce qu'il a fait assez de bonnes œuvres pendant ces quelques minutes d'agonie en croix pour effacer tout son brigandage précédent? C'est certainement pas par les œuvres que Jésus puis lui dire, ben, t'en as tellement fait qu'aujourd'hui tu es avec moi dans le paradis. C'est sur sa profession de foi. Et c'était une profession authentique. Certains pourraient se scandaliser en disant, oui, mais c'est pas juste, c'est un brigand. Nous sommes tous des brigands. Nous sommes tous des criminels. La difficulté, c'est qu'on n'est pas capable, avant d'avoir reçu la lumière, avant d'avoir reçu la norme, de définir ce qu'est un péché. Un péché, c'est toute transgression à la loi de Dieu. Et j'aime bien ce verset qu'on a lu précédemment, là, que toute langue soit fermée, hein, et que tout homme soit considéré comme menteur et Dieu pour vrai. Et que nous dit la troisième strophe maintenant?
Ce chant n'a pas peur de parler du sang du Christ. Cher agneau mourant, ton sang précieux ne perdra jamais sa puissance. Et toute l'Église rachetée de Dieu sera sauvée pour ne plus pécher.
Quelle aspiration, quelle espérance est la nôtre. Hein? Et c'est l'espérance biblique, le mot elpis en grec, hein? C'est beaucoup plus que quelque chose qu'on espère en disant, j'espère que ça va arriver, mais il y a des grosses chances que ça n'arrive pas. Le contexte biblique de l'espérance, c'est l'assurance, c'est une assurance. Alors, cette troisième strophe nous parle de l'efficacité éternelle du sang de Jésus pour laver un pécheur de ses souillures. Vous, Mac, qui êtes très bon en maths, Mac, hein, qui êtes très bon en mathématiques, okay. Mais vous êtes bon en tout, on vous connaît, vous êtes bon en tout, vous êtes un surdoué. Combien d'offrandes faut-il pour amener pour toujours à la perfection ceux que le Christ a sanctifiés?
Avec toutes mes capacités en maths qui sont pas aussi autant que tu penses. Je ne sais pas vraiment.
Il en faut une seule. Par une seule offrande. Ça prend pas beaucoup de mathématiques, hein. Par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Voyez-vous, de notre part à nous, effectivement, on ne pourrait jamais savoir combien. En fait, il n'y aurait jamais suffisamment d'offrandes, de bonnes œuvres, pour nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères, pour prendre l'expression biblique. Mais Hébreux 10, 14 nous dit, « Par une seule offrande, le Christ a amené pour toujours à la perfection ceux qu'il a mis à part, ceux qu'il a sanctifiés. » Ça veut dire le pardon des péchés présents, passés et futurs. Tant et aussi longtemps que nous vivrons en régime d'incarnation, on ne s'illusionne pas, hein, on va continuer à pécher. Bon, il y a une œuvre qui se fait, hein, il y a une œuvre qui se fait et on grandit dans l'obéissance au Fils de Dieu. Mais l'arrêt total du péché, le complet balayage du péché va se faire exclusivement lorsque nous entrerons dans la gloire. Nous définissons, somme toute, le salut. Moi, j'aime bien utiliser l'expression suivante, les trois P de l'histoire de la rédemption. Dans un premier temps, nous sommes délivrés de la punition du péché. Ça, c'est la justification. Hein? Le Christ a porté nos péchés en croix, il a porté la punition de nos péchés, de sorte qu'on n'a plus à porter cette punition-là, nous. Dans un deuxième temps, progressivement, nous sommes délivrés de la puissance du péché, le deuxième P. Ça, c'est la sanctification progressive. L'Esprit commence à travailler lorsque nous sommes convertis pour nous amener à être en condition ce que nous sommes en position, parce que nous avons une position parfaite, hein, par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection. Mais on n'est pas encore parfait ici bas dans notre condition. Mais progressivement, très lentement, comme disait Spurgeon, les moulins de Dieu moudent lentement, mais ils moudent finement. Hein, très, très lentement, Dieu nous amène, nous transforme en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième P, ah ben là, attention, je me souviens plus. C'est bête, hein, je suis un blanc. La punition,
la présence,
voilà. Merci beaucoup. Vous l'aviez déjà entendu. Merci de me le rappeler. La présence du péché, débarrassé de la présence du péché même, quelle gloire. Et c'est ainsi que la strophe se termine. D'ailleurs, nous ne pécherons plus. Et qu'en est-il de la quatrième strophe?
C'est très personnel. Depuis que par la foi j'ai vu le ruisseau alimenté par tes meurtrissures, l'amour rédempteur est et sera mon seul thème jusqu'à ce que je meure.
C'est donc par la foi seule que ce sacrifice du Christ est rendu efficace dans nos vies. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, Éphésiens 2, 8, 10. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Hello? Cela ne vient pas de vous. Hello? Cela ne vient pas de vous. Ça vient de quelqu'un d'autre. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Non pas sauvés par de bonnes œuvres, mais sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On peut comprendre, hein, l'insistance de Paul alors qu'il s'adresse aux Galates, au chapitre 3, versets 1 à 3. Ô Galates dépourvus de sens. Ça fait sympathique, hein? Vous recevez une lettre et « Cher ami, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Cinquième strophe.
Lorsque cette pauvre langue qui balbutie, qui bégaye, reposera en silence dans sa tombe, alors par un cantique plus noble et plus doux, je chanterai la puissance de ton salut.
Ah, mais il y a un chant qui nous dit, oh Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour chanter tes louanges. Ce sera le cas là-bas. Lorsque viendra le temps de passer de vie à éternité, parce qu'il n'y a personne qui risque d'y échapper. Hein, comme on dit toujours, il y a deux choses qui sont certaines, les taxes et la mort. Lorsque le temps viendra de passer de vie à éternité, cher ami qui nous écoutez là, quel sera votre plaidoyer devant Dieu? Est-ce que vous direz, ben, Seigneur, voici mon CV. Voici là toutes les œuvres que j'ai accomplies. On risque d'arrêter l'embauche, hein? n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas par les œuvres. Ou encore, est-ce que je dirais, ben là, Seigneur, je suis conscient que j'ai pas été parfait, mais si tu me compares aux autres créatures, j'ai quand même pas été si pire. Tu veux voir que je suis quelqu'un quand même de bien. Est-ce que c'est sur cette base-là qu'on va entrer au ciel? Ou encore, ben voici, Seigneur, la religion à laquelle j'ai appartenu. Hein? Ça, c'est une bonne religion. En fait, c'était la plus répandue. C'était celle que tout le monde reconnaissait. Ça a même été religion d'État dans le passé. Alors, certainement que ça me donne des créances, là, ici. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Galates, chapitre 5, verset 6, nous dit, « Car en Jésus-Christ, hein, il prend la circoncision et l'incirconcision qui étaient tellement importantes pour les Juifs, prennent en considération que le judaïsme, c'était la meilleure religion qui existait dans l'histoire de l'humanité. Hein? Et le judaïsme, on sait que le signe fondamental, c'était la circoncision. Alors, l'apôtre de dire, car en Jésus-Christ, la circoncision ou l'incirconcision, j'ai presque envie de dire, pour paraphraser, la religion ou l'irreligion, dans le sens de religiosité, non de valeur, non pas de valeur, mais seulement la foi. Et attention, c'est pas fini. La foi qui est agissante en Jésus-Christ. Parlez avec les gens. Oui, moi, j'ai la foi en mon gourou, j'ai la foi en mon horoscope, j'ai la foi en moi-même ou j'ai la foi en rien. Non. La foi agissante par l'amour. La foi en Christ Jésus qui est agissante par l'amour. Comment peut-on avoir l'assurance que nous avons la véritable foi? Parce qu'elle est en vie. Elle agit. Elle a des signes vitaux, cette foi-là. Alors voilà la théologie qui se dégage de ce magnifique cantique, Mac. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces choses-là, sur ces propos-là, mon cher ami?
Il n'y a rien à ajouter à cela, je crois. L'histoire est complète. Sauf que on va écouter une autre version de ce chant.
Et c'est effectivement sur ces quelques mesures-là, Mac, que nous allons nous quitter. Merci encore d'avoir été là. Et merci à vous aussi, chers amis, d'avoir été présents ce matin. Nous espérons que ces quelques propos vous auront apporté quelques édifications, quelques lumières et quelques encouragements. Nous vous convions à la prochaine, donc, samedi prochain. Entre-temps, l'émission Paroles en musique vous revient en rediffusion cet après-midi à 17h30. Nous vous souhaitons un excellent week-end, un jour du Seigneur. Béni et à la prochaine.
faith I saw the strength.